Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Anne Jouffroy.
Yves-Marie Bercé, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être de nouveau avec nous sur Canal Académie et poursuivre votre série sur les grands personnages du XVIIe. Vous êtes historien moderniste, membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, auteur de nombreux ouvrages, et dans un colloque sur les complots et les conjurations dans l'Europe moderne, un colloque que vous aviez organisé, vous évoquiez les coups de majesté des rois de France. Aujourd'hui, il s'agit de celui du jeune Louis XIV et de l'arrestation de son surintendant Fouquet le 5 septembre 1661. Louis XIV avait 23 ans ce jour-là, 6 mois après la mort de Mazarin. Louis XIV fait un coup de théâtre, la cour de France est stupéfiée, sa mère aussi, Anne d'Autriche aussi. Et le procès Fouquet, je crois, on va en parler tout à l'heure, est un des plus retentissants du XVIIe.
Et avec peut-être même de l'histoire de France, parce qu'il a été orchestré d'une manière qui est, on dira, intemporelle. Il peut résonner à toutes les époques parce qu'il devient une sorte d'archétype du procès politique.
Oui, on va voir sa postérité d'ailleurs, parce que vous aviez fait aussi des articles là-dessus. Cet été, pour coller à l'actualité, parlons du château de Vaux-le-Vicomte, qui célèbre les 350 ans de la grande fête que Nicolas Fouquet a organisée le 17 août 1661 pour son roi. Ça, c'était 3 semaines avant son arrestation. Alors Yves-Marie Bercé, qui était Nicolas Fouquet? Bon, je dis tout de suite, il est né en 1615 et il est mort dans sa forteresse de Pignerol en 1680. Pourquoi Louis XIV a-t-il éprouvé le besoin d'être aussi inflexible vis-à-vis de lui? Pourquoi l'affaire Fouquet a-t-elle eu un tel retentissement? Comment peut-on comprendre sa postérité aussi?
On va donc partir de la carrière de Nicolas Fouquet. Il est issu d'une grande famille de magistrats parisiens, puisque son père et son grand-père étaient conseillers au Parlement, son père maître des requêtes, intendant, et riche et collectionneur, et investissant ses moyens dans les toutes premières compagnies maritimes ou engagées dans des expéditions au-delà des océans. Son père a été actif dans ces entreprises dans les années 1630-1640 et Nicolas Fouquet, dès la mort de son père dans les années 1640, prend sa suite dans ses intéressements maritimes, dans des parts, dans des compagnies de commerce qui trafiquent, et c'est une nouveauté totale, avec la Nouvelle-France, avec même les Caraïbes, avec la Martinique et la Guadeloupe, où ce sont les tout premiers établissements de marins français, et au-delà, dans l'Atlantique Sud, vers le Sénégal, vers même au-delà du Cap de Bonne-Espérance, vers l'océan Indien. Donc il est dans une famille qui est à la pointe de la nouveauté économique et institutionnelle. Il se trouve être très vite, il est à 16 ans, il est conseiller au Parlement de Metz, à 20 ans, il est maître des requêtes. Il se trouve ensuite intendant de Dauphiné, et puis, c'est la carrière classique d'un maître des requêtes, il va ensuite, alors c'est là que, passant du travail d'intendant de finances ou d'intendant d'armée, en 1650, il acquiert la charge très considérable, énorme, de procureur général du Parlement de Paris. Le procureur général du Parlement de Paris, c'est un personnage qui est, en dessous du chancelier, responsable de l'ensemble de la direction des sièges de juridiction de la moitié du royaume et qui donc conduit la jurisprudence, l'usage des lois. On en retiendra par exemple au XVIIIe siècle, c'est la généalogie des Jolies de Fleury qui ont été sur 3 générations les procureurs généraux du Parlement de Paris. Alors, c'est cette charge énorme que le jeune Nicolas Fouquet assume en 1650. Il est dans la fronde, dans le camp de la cour, le camp de Mazarin, et en février 1653, Mazarin lui confie, ainsi qu'un vieux diplomate Albert Servien, ils forment un duo assez disparate.
Qui était à l'Académie française, Albert Servien.
Albert Servien, donc un négociateur qui avait travaillé au traité de Westphalie, et les voici tous deux se partageant la charge énorme de la surintendance des finances du royaume. Alors, il exerce cette responsabilité avec Servien, puis ensuite seul, de 1653 jusqu'à sa chute en 1661. La France continue à ce moment-là une guerre qui dure plus de 30 ans contre l'Espagne. Et des occasions de paix ont été manquées. La Fronde était d'ailleurs une réaction, l'immense majorité de l'opinion, désirant la paix, désirant la fin de l'oppression fiscale qui permettait seule de maintenir l'effort militaire aux frontières. Et Fouquet se trouve chargé d'assurer les crédits nécessaires au maintien sur un pied de guerre énorme, sur plusieurs frontières, des armées donc du royaume. Et il n'a pas le temps, il n'a pas les moyens, ni l'intuition, ni l'intelligence, ni le temps peut-être d'entreprendre des réformes. De sorte que on voit le total des revenus fiscaux du royaume en 1653 et de, je crois, 130 millions de livres, et il passe en 1659-61 à 160 et quelques millions de livres. C'est-à-dire que c'est une hausse considérable. Or, sans aucun changement institutionnel, l'impôt principal, ce sont les tailles qui reposent sur les revenus terriens, c'est-à-dire sur les paysans, pratiquement pas sur les grandes villes qui sont prêtes toutes exemptées des tailles. Par conséquent, beaucoup de levées de ces tailles augmentées dans les provinces se révèlent irrécouvrables ou bien ne peuvent être levées que par la contrainte. Et on recourt à la dépossession des officiers de finances ordinaires qui étaient chargés de la répartition et du recouvrement des sommes, on les remplace par des fermiers, c'est-à-dire des traitants, des affairistes, qui font l'avance au roi de la somme et ensuite se chargent avec des pouvoirs de contrainte qui leur sont octroyés par les intendants des provinces, de mettre sur pied des troupes légères, des compagnies de cavalerie, de chevaux légers, et qu'on appelle les fusiliers des tailles, et qui vont contraindre solidairement les communautés au versement des tailles par la force. Alors, il y a, bien sûr, comme auparavant, du temps de Richelieu, des dizaines et des centaines de violences, de résistances antifiscales et de révoltes. Les années 1656-57 sont particulièrement difficiles dans la mesure où, loin de triompher sur les fronts de Piémont et des Flandres, les offensives françaises échouent chaque été, en 1656, en 1657. Et donc, on se retrouve dans la situation insurrectionnelle où l'on était en 1648, c'est-à-dire que en Gascogne, en Auvergne, en Saintonge, en Normandie, en Orléanais, il y a des prises d'armes de gentilshommes, de paysans qui résistent aux fusiliers des tailles. La principale révolte se situe en Orléanais. Il y a une assemblée de noblesse qui couvre l'ensemble de la noblesse depuis la Basse-Normandie jusqu'au Berry, qui réunit des représentants de 14 provinces qui réclament la réunion des États généraux et la fin du terrorisme fiscal. Alors, ces contestations politique se double d'une révolte paysanne en Sologne du fait de l'inflation locale de monnaie de cuivre. Parce que pour permettre les petits échanges populaires, on frappe des monnaies, ce qu'on appelle des monnaies de billon, des petites monnaies de cuivre qui, très vite, parce qu'elles n'ont aucune valeur intrinsèque, elles aboutissent, comme toutes les petites monnaies divisionnaires, dans la poche des plus pauvres. Parce que personne ne les accepte comme paiement. Donc, on finit par les décrier. Alors, on imagine donc ce que peut représenter l'indignation, si vous voulez, des malheureux dont leur monnaie de cuivre se trouve dévalorisée. Ça fait éclater ce qu'on appelle la révolte des sabotiers, la guerre des sabotiers en Sologne, qui dure de avril à novembre 1658. Bon, alors je passe sur ces détails, mais c'est pour expliquer que
vous campez le décor.
Fouquet a soutenu une politique de répression fiscale dont il était vraiment directement responsable, parce qu'on a ses signatures. On sait que ce sont ses choix personnels de la répression de l'Orléanais, de la répression de la ville de Marseille. Il exerce effectivement consciemment cette politique de terrorisme fiscal. Alors ensuite, tout change en 1658, puisque là, la fortune des armes a tourné, et le 14 juin 1658, Turenne remporte la victoire décisive des Dunes aux abords de Dunkerque, qui oblige désormais les Espagnols à envisager de négocier, de consentir à la France, à Mazarin, une paix victorieuse. À ce moment-là, toute l'opinion attend et voit et constate avec allégresse la paix, le mariage d'un jeune roi avec une infante d'Espagne qui symbolise véritablement la paix entre les deux royaumes. On attend une remise, donc une baisse considérable des impôts, qui va arriver d'ailleurs à terme, puisqu'on licencie un très grand nombre de régiments, la guerre est finie et elle est gagnée. Et là-dessus, le ministre détesté, Mazarin, meurt le 9 mars 1661. C'est l'allégresse générale, tout le monde le détestait. Tous les mémoires du marquis de Montglas, de Madame de Motteville disent à quel point la personne de Mazarin était méprisée et détestée. Il avait, il est vrai, accumulé, on le sait d'ailleurs a posteriori, c'est plus les historiens qui le reconstituent, accumulé la plus énorme fortune qu'aucun ministre n'ait jamais pu réunir au cours de son ministériat sur plusieurs siècles d'histoire de France. 38 millions de livres. Donc, je vous ai dit tout à l'heure quel était le budget des recettes de l'État. On voit la fortune fabuleuse qu'il a réunie depuis seulement son retour au pouvoir en 1653.
Ah, oui. Il avait déjà tout perdu en 51. Voilà. Il recommence en
53. Il a tout recommencé. Et il l'a recommencé grâce à Fouquet, qui est son homme d'affaires, son principal ministre est le responsable de la politique intérieure dans la mesure où Mazarin, comme Richelieu, auquel il avait succédé, se désintéressait du fonctionnement intérieur des institutions et du maniement des finances dans le royaume. Et ce qui les intéressait, c'était leur problème de la guerre européenne, du prestige du royaume, des conquêtes aux frontières. Donc on a ce contraste d'un royaume victorieux et d'une gabégie sanglante à l'intérieur du territoire.
Parce que Fouquet était un ministre des Finances qui a pratiqué la gabegie.
C'est-à-dire qu'il s'est contenté de garder le système fiscal en regrévant chaque année un peu plus les tailles, sans modifier ce qui va être fait tôt ou tard, c'est-à-dire de changer les prélèvements, enfin de rééquilibrer les impôts sur les différents groupes sociaux. Ce que va faire Colbert, qui avait pratiqué le même type de politique dans les années 1650. Quand Colbert vient à la responsabilité des finances dans les années 60-70, il va avoir l'ingéniosité de faire reporter le poids sur les impôts indirects, les impôts de consommation, qui frappent les citadins beaucoup plus et les groupes privilégiés, puisque les impôts de consommation n'ont pas d'exemption. Alors, il est évident que c'est un énorme soulagement pour les gens des campagnes. On fait passer le poids de la majorité des impôts, des tailles campagnardes, aux impôts de consommation urbains. Et puis, également, Colbert est très attentif à supprimer les moyens de contrainte, c'est-à-dire les recouvrements à force armée. Les révoltes ne cessent pas immédiatement, mais elles cessent à partir du courant des années 1670, sur 15 ans environ.
L'affaire Fouquet, maintenant qu'on a compris qu'il avait quand même une façon un petit peu particulière de s'enrichir aussi, Fouquet...
Mais c'est-à-dire que Louis XIV est sans doute conscient de la nécessité d'une remise en ordre qui s'impose aux yeux de tout le monde, puisqu'on est parvenu à la paix et qu'on a un jeune roi de 23 ans qui est décidé à prendre lui-même les affaires en main. Alors, il répond tout à fait là aux attentes de l'opinion qui souhaite avoir un roi qui gouverne et pas par l'intermédiaire de ministres qui sont nécessairement soupçonnés d'être corrompus, vénaux, d'être intéressés aux affaires, de négliger, de voler le roi, le Louvre et les paysans à la fois. Alors ça, c'est le slogan, si vous voulez, antifiscal habituel. Alors, on a la mort de Mazarin et on sait que Louis XIV, très tôt, 2 mois après, a conçu, sur les conseils de Colbert, certainement, enfin, c'est pas certainement, c'est tout à fait assuré, confirmé, établi, la chute à terme de Fouquet. Et Fouquet est effectivement incertain, inquiet. On sait qu'il y a une confidence qu'il aurait faite et qui est rapportée dans les mémoires de l'abbé de Choisy, où il dit « Quel est l'État qui pourrait oser m'offrir un refuge en exil ?» Il envisageait la République de Venise ou la Toscane, de se réfugier dans le port de Livourne. Il est inquiet. Alors, il y a un autre... Là, j'ai exposé le fait, le mécontentement fiscal dont le roi ne pouvait pas ne pas être conscient. Et il y a un autre aspect qui pouvait paraître redoutable, à tort ou à raison, dans les comportements de Fouquet,
c'était
son intéressement dans les problèmes maritimes et coloniaux. Alors, il avait acheté en 1658 le territoire, la seigneurie de l'île de Belle-Île, mais il était intéressé également dans l'île Dieu, dans tous les territoires entre le golfe du Morbihan et le pays nantais. Là, il tenait la citadelle de Concarneau, qui est une place inexpugnable, d'un fort point d'appui. Et il avait une flotte importante, une flotte de guerre, d'au moins une dizaine de vaisseaux, depuis des grosses barques jusqu'à des frégates, d'une vingtaine de canons, et qu'il armait en course sous pavillon portugais, ce qui lui permettait d'attaquer non seulement des navires espagnols, ce qui aurait été légitime, mais des bateaux hollandais, faisant le trafic classique à travers l'Atlantique. Hollandais qui étaient supposés être en paix et même alliés du roi de France.
Mais ne fallait-il pas que tous ces vaisseaux qui faisaient du commerce soient armés aussi contre la course des corsaires ?
Oui, mais c'est ce qu'ils faisaient, la course. C'est-à-dire qu'ils participaient, certes, d'autres, maréchal de la Meilleraie, lieutenant général en Bretagne, le commandeur de Neufchèze qui était gouverneur de la place de La Rochelle, Mazarin lui-même à partir de Brouage, tous ces gens-là armés en course, avec, c'est-à-dire qu'ils ont des lettres du roi autorisant l'armée en course, mais ce sont des intérêts privés. C'est-à-dire quand ils font une prise, il y a certes une part pour le fisc royal, mais enfin ce sont des entreprises de piratage maritime autorisées.
Oui, alors il avait un peu une attitude qui faisait qu'il avait sa forteresse à lui, qu'il organisait, le port de Palais.
Il a sa flotte, il a véritablement sur toute la façade atlantique, la Bretagne et le Bas-Poitou, une zone de refuge. C'est là, j'anticipe peut-être sur le procès, on lui reprochera d'avoir dessiné une sorte de plan de refuge en cas de perte de confiance de Mazarin à son égard, une sorte de moyen de repli. Il aurait cherché refuge à Belle-Île ou à Concarneau. Mais à vrai dire, là, il faut dire que ces places maritimes avaient été auparavant contrôlées par Mazarin, où lui avait été concédé avec la bienveillance de Mazarin, et qu'auparavant, le Havre, Brouage, avait été sous le contrôle de Richelieu. Et Richelieu, pendant la journée des dupes, pendant les quelques heures où il pensait être renvoyé, envisageait de se réfugier dans une forteresse maritime. De sorte que je crois que ça fait partie du jeu politique de l'époque. On lui a reproché, parce qu'on lui faisait son procès, mais les précédents illustres ne manquaient pas. Alors, on en vient peut-être, si vous voulez, à l'été 1661. On a
oui.
dit que Fouquet... Alors, on aime bien montrer, si vous voulez, combien l'aspect coup de théâtre et combien la roche tarpéienne est proche du Capitole. On a des exemples contemporains. Mais ça, c'est donc une sorte de dramatisation dont l'historiographie et puis l'opinion même à l'époque est avide. Et c'est pour ça qu'on en vient à valoriser, sans doute, l'influence de la fête de Vaux-le-Vicomte. Alors, en fait, sa perte était programmée auparavant. Mais il est vrai que, donc, à l'été 1661, Fouquet organise des grandes fêtes dans le château de Vaux-le-Vicomte, dont les travaux viennent d'être achevés. Il l'a acheté, lui, tout jeune, en 1641, alors que c'était un petit manoir en mauvais état, délabré, remontant, dit-on, au XIVe siècle. Et puis, depuis, il y a fait travailler à partir de 1653, à partir du moment où le surintendant des finances, et il fait acheter des terres tout autour pour constituer vraiment un très grand domaine. Il fait raser le vieux village de Vaux, il fait couper des bois, il fait creuser des canals, il fait détourner des rivières, aplanir des collines et amener des adductions d'eau pour les pièces d'eau et les fontaines. Et il confie ses travaux à l'architecte fameux Louis Levaux, qui est déjà très réputé, qui a travaillé à Vincennes, qui est architecte du roi, le décor intérieur au peintre Charles Lebrun et l'aménagement des jardins
à Le Nôtre.
Excusez-moi
du peu.
Il a les meilleurs aménageurs, artistes de son temps. Alors on sait que le 11 juillet, il avait invité la cour, monsieur était venu, le roi, pour quelques raisons, en avait été empêché. Donc le 17 août, c'est une sorte de retour d'une grande fête où le roi, on le sait, pourra venir lui-même. Et à cet effet, on a amené des chariots de meubles, de tapisseries depuis ces maisons de Paris ou d'Île-de-France, ce qui en dit long d'ailleurs sur le décor intérieur des châteaux, dont on sait qu'ils étaient souvent très vides et qu'il fallait apporter...
En fait, le mobilier passait de château en château.
Voilà, et on tendait des tapisseries pour couvrir des murs qui n'étaient pas nécessairement tous décorés. Et on accueille le roi qui vient de Fontainebleau. Le visiteur, on le sait, ébloui par la prolifération des jets d'eau, leur nombre, leur hauteur, qui donne l'impression de circuler au milieu d'une allée entourée de murs liquides. Il y a ensuite un banquet de 80 tables. Il y a aussi, bien sûr, une comédie ballet.
De Molière.
Nouvelle de Molière. Il y avait eu, le 11 juillet, Molière avait donné une première, l'École des Maris. Et là, c'est une nouvelle pièce, également sortie de sa plume incessamment, Les Fâcheux, montée sous forme de comédie ballet, c'est-à-dire avec des intermèdes de musique et de danse entre les scènes. Et puis après, tout s'achève par un feu d'artifice magnifique avec une nomachie éclairée sur le canal et une machine représentant une baleine qui explose avec des pétards extraordinaires. Et alors voilà, c'est la magnifique, la célèbre fête de Vaux qui est consacrée à la fin des travaux de l'aménagement du domaine de Vaux-le-Vicomte. On avait travaillé tous les jours avec des centaines d'ouvriers de 1656 à 1661. Vraiment, c'était le dernier mot, si vous voulez, du luxe et de la beauté. Et c'est pour ça que cet épisode a semblé être le détonateur, en quelque sorte, de la colère de Louis XIV. Il semble, là aussi, on n'a que le rapport de mémorialiste, que Louis XIV, montant en carrosse aux côtés de sa mère, lui aurait dit « Ah, madame, ne fera-t-on pas rendre enfin gorge à ces gens-là ?»
On va en parler de Louis XIV, du coup de majesté et puis de ses relations particulières. Parce que tout à l'heure, hors antenne, vous disiez que Fouquet, en fait, a payé pour Mazarin.
Voilà, je crois que Louis XIV, à 23 ans, il n'est pas sûr de lui-même. Alors, c'est tout de même un paradoxe. de dire que Louis XIV est timide et embarrassé, incertain de ses décisions. Mais il faut comprendre que jusque-là, il a été tenu sous tutelle par Mazarin, qu'il en a ressenti certainement une frustration constante, que les ragots ont toujours prétendu que Mazarin était beaucoup trop proche de la reine-mère, de sa mère Anne d'Autriche, qu'il en a certainement conçu une véritable irritation, voire détestation de ce personnage, et que, au fond, alors pour faire une psychanalyse à bon marché, on dirait que c'est un petit peu le meurtre du père, c'est-à-dire que, enfin, de l'amant fantasmé de sa mère. Bien sûr, on est là dans l'imaginaire, mais on a tout un tas d'éléments qui prouvent que Louis XIV en faisait véritablement une affaire personnelle. Alors, donc, le 5 septembre 1761, au sortir du cabinet où il a traité des affaires politiques de l'instant, qui concernaient l'ensemble de la Bretagne, puisque c'est la raison du voyage vers l'ouest était l'inauguration des États de la province de Bretagne, des États provinciaux, qui votent chaque fois un impôt librement consenti par la province, puisque c'est un pays d'État. Et au sortir donc du cabinet royal, Fouquet est arrêté par les mousquetaires du roi, D'Artagnan qui les commande, et immédiatement enfermé dans un logis, puis transféré ensuite dans des châteaux, et on aboutira finalement au château de Vincennes. Or, ce qu'il faut remarquer, c'est d'une part donc la volonté d'un coup d'État, d'un coup de majesté, puisque Louis XIV ne recourt pas à une instance judiciaire légitime, il ne recourt pas même à ses gardes du corps, parce qu'il se méfie de M. de Gesvres, qui est un ami de Fouquet, c'est-à-dire qu'il fait appel à une sorte de troupe de police extraordinaire, ce que sont les mousquetaires. Il avait tenu seulement 4 ou 5 personnes dans le secret. Donc il agit dans sa propre cour, dans son propre état, contre les règles qu'il suit lui-même, contre les ordonnances qu'il se fixe. On peut dire que c'est véritablement un coup de majesté, un coup d'état royal. Alors ça, c'est l'apparence, enfin plutôt la couleur institutionnelle. Et ensuite, on s'aperçoit que ce geste-là est vraiment un coup de maître, c'est le terme qu'emploient les spectateurs de l'époque, des correspondants, parce que l'opinion est ravie. Fouquet, tout au long de son parcours, Angers à Saumur, Étampes jusqu'à Paris, est hué par la foule qui veut le mettre à mort. Et les 80 mousquetaires ont beaucoup de peine à se frayer un chemin parmi la foule qui, armée de bâtons ou de pierres, voudrait s'emparer de Fouquet.
Et pourtant, ça va devenir une victime.
Pas immédiatement. Il faudra plusieurs mois, plusieurs années.
Le procès, en tout cas.
De procès. Et on a, dans l'instant, voilà un des petits vers de Mirliton qui sont posés, racontés le mea culpa de Fouquet sur l'échafaud, il serait supposé dire, bien sûr c'est totalement imaginaire.
Oui, parce qu'il n'a pas été sur l'échafaud.
Je verrai contre moi le paysan gronder, le peuple jusqu'au ciel pousser sa doléance, le marchand aux abois crier partout vengeance, l'honneur de mes forfaits a troublé ma cervelle. Je vois à tout moment qu'on va m'exécuter, je pense me voir sur l'échelle et j'entends le peuple chanter. Mais à voler comme je fis, à dépouiller toute la France, à la charger de tant d'édits, qui n'eût pas de ma mort tiré la conséquence. Voilà, c'est le salve regina de M. Fouquet. C'est à l'hiver 1661, c'est après son arrestation, c'est un de ses nombreux textes qui témoignent de l'engouement de l'opinion. Alors, ce qui est remarquable aussi, c'est alors l'orchestration que va donner Louis XIV et Colbert à chacun des épisodes du procès. C'est-à-dire qu'on va perquisitionner dans ses maisons, à Paris, à Saint-Mandé, à Vaux-le-Vicomte, et on envoie des commissaires qui exécutent cette fouille, cette perquisition. Mais on fait accompagner l'issue, la sortie des commissaires, d'une escorte de mousquetaires avec trompette et tambour, apportant les preuves jusqu'au Louvre ou à la Chambre de justice. Donc, il y a une mise en scène constante et qui se répète de jour en jour à mesure qu'avance le procès. Et ensuite, chaque fois qu'ensuite commencent les interrogatoires à partir de mars 1762, Les interrogatoires sont copiés, imprimés, diffusés, vendus dans les rues de Paris. Et au point qu'on a un petit recueil de 16 volumes in 12 de l'ensemble des interrogatoires, des copies de pièces saisies, etc.
Ça fait des archives publiées, incroyables.
Oui, qui est publié dès 1668, qu'on peut acheter. Donc, véritablement, le pouvoir royal, si vous voulez, a orchestré, a rendu spectaculaire, a mis en scène le procès. Alors, on a créé une chambre de justice, c'est-à-dire, là encore, on déroge aux procédures ordinaires. Ça aurait été le Parlement de Paris qui aurait dû... Or là, ce sont des magistrats, des commissaires désignés arbitrairement par le roi qui vont instrumenter. Or, le procès va durer beaucoup plus que ne l'imaginaient au départ les organisateurs. Et ceci parce que Fouquet se défend.
Il se défend très bien.
Il se défend très bien et il se révèle aussi qu'il a énormément d'amis, de gens fidèles qui, dans tous les niveaux de la société, et jusque à la cour, et jusque à la reine-mère elle-même, plaident sa cause. Il faut dire que c'était un mécène, c'était un personnage de bon caractère, beau, bourreau des cœurs, aventureux, généreux avec l'argent de l'État.
Un vrai esthète.
Un véritable esthète, au fond sans doute inconscient de destin. Il appartenait aussi à une famille extrêmement pieuse, extrêmement catholique, bien que lui n'ait pas donné un modèle d'existence confite dans la dévotion. Mais enfin, il avait 6 sœurs religieuses, 2 frères évêques et un frère abbé, puisque sa mère, Marie de Maupoux, n'avait pas eu moins de 15 enfants, ce qui est extraordinaire. Et elle lui a survécu, d'ailleurs, cette femme admirable. Alors, voilà comment Fouquet est défendu et comment, en peu de temps, l'opinion, en 1 ou 2 ans, l'opinion se retournait. On a un texte de Louis XIV de 1664. Marie-Madeleine,
son épouse,
a demandé l'autorisation de pouvoir le voir quelquefois et de permettre à ses avocats d'aller le visiter quand ils le souhaitaient et non pas à des dates limitées et non pas sous la surveillance d'un geôlier ou d'un capitaine des mousquetaires. Or, cette faveur, qui relève des droits de la défense qui existaient dans les ordonnances royales, est rejetée par Louis XIV. Et il répond « Il y a plus de 2 ans que le procès est commencé, et je souhaite extrêmement qu'il finisse. Il y va de ma réputation. Ce n'est pas une affaire de grande conséquence. Au contraire, je le considère comme une affaire de rien. Mais dans les pays étrangers, où j'ai intérêt que ma puissance soit bien établie, l'on croirait qu'elle ne serait pas grande si je ne pouvais venir à bout de faire terminer une affaire de cette qualité contre un misérable. Je ne veux que la justice, mais je souhaite voir la fin de cette affaire de quelque manière que ce soit. »
Voilà. C'est lourd de sens.
C'est-à-dire qu'il proclame expressément qu'il s'agit d'une affaire d'État, c'est d'un procès. Un procès politique, c'est un procès qui engage les intérêts de l'État et dans lequel le souverain s'investit là personnellement. On voit qu'il considère que c'est sa propre réputation qui est en cause. Et on sait, parce qu'il l'a dit et il ne l'a pas caché, que si, comme il le souhaitait, les magistrats de la commission l'avaient condamné à mort, il l'aurait fait exécuter sans lui accorder de grâce. Donc on a vraiment là, pas le sentiment, mais la certitude qu'il s'agit d'une affaire d'État ressentie intimement par Louis XIV comme l'enjeu, le début de son règne personnel, l'enjeu essentiel du début de sa maîtrise politique.
C'est pour ça que ce drame politique a une postérité incroyable.
Alors voilà, après avoir vu, si vous voulez, cet aspect, le contraste de la gloire politique et de la déchéance et du malheur judiciaire, on a d'autres images qui, elles aussi, sont éloquentes et signifiantes d'une manière qui traverse les siècles. C'est la fidélité des amis, l'acharnement et la veulerie des gens d'Europe, des chicaniers, des gens de procédure, la cruauté personnel de Louis XIV, qui va faire preuve ensuite, pendant les longues années d'emprisonnement de Fouquet, du même caractère impitoyable vis-à-vis de toutes les requêtes qui auraient pu être adressées en sa faveur. Donc, il y a tout un faisceau là, d'aspects dramatiques qui sont éloquents pour toutes les époques. Alors, c'est pour ça qu'il y a une postérité historiographique et romanesque très importante au XIXe siècle. On voit, alors le premier, c'est l'éditeur de la correspondance de Colbert, Pierre Clément, 1846, qui évoque le procès Fouquet et qui, sans hésitation, le juge coupable. Puisqu'effectivement, il a les papiers, l'argumentation colbertienne. Ensuite, on a aussi les travaux de Ravaisson-Mollien, qui est alors assez connu. Il était conservateur de la bibliothèque de l'Arsenal et à ce titre, il a publié en plusieurs volumes les archives de la Bastille, qui commencent notamment avec les papiers du procès Fouquet. C'est dans les années 1860. Et c'est seulement vers 1890 qu'un autre érudit, Jules Lair, L-A-I-R, va prendre un contre-pied, et c'est-à-dire une sorte de réhabilitation
il va venger
de la
Fouquet.
Cause de Fouquet, oui. Et puis, plus près de nous, en 1961, et là c'est dans la conjoncture des affaires politiques de l'époque, Paul Morand, en 1961, écrit le Soleil offusqué. Plus près de nous, on a aussi deux autres livres d'historiens, tous les deux de très grande valeur, de Daniel Dessert en 1987, qui montre comment Colbert est l'artisan résolu, convaincu de la perte de Fouquet. Et puis un livre en 1998 de Christian Petit-Fils qui, lui, je dirais pas va prendre une attitude inverse, mais se trouve peut-être montrer plus d'équanimité dans le spectacle de cet affrontement de deux clientèles, celle de Fouquet et celle de Colbert.
Oui, parce que c'était aussi un monde où il y avait des clans et clientélisme. Mais pour conclure, est-ce que ce personnage éminemment tragique et romanesque n'était pas avant tout un grand séducteur et qu'il n'avait pas bien compris qui était Louis XIV et c'était pas un roi jeune, frais et moulu, mais capable de beaucoup d'énergie? Est-ce qu'il n'y a pas eu misfit entre les deux?
Bien sûr, mais bon, ils n'appartiennent pas à la même génération. Et tout de même, Fouquet est né en 1615, Louis XIV est né en 1638. Alors, vous voyez, tout de même, une différence de génération considérable. Louis XIV, je répète toujours cet investissement personnel. Il y a un détail que je n'ai pas rapporté là. Immédiatement après l'arrestation de Fouquet, Louis XIV écrit à sa mère qu'il lui annonce l'arrestation de Fouquet et ingénument, il dit à sa mère qu'il s'est plongé dans les papiers de finance et qu'il les a finalement en peu de temps compris et qu'il se faisait beaucoup de soucis. Il craignait n'être pas capable de pénétrer les secrets des mécanismes des ordonnances de finance et qu'il se flattait de les... Alors, cette réflexion naïve, c'est ça qui m'amène, si vous voulez, à dire que ce jeune homme de 23 ans qui accède aux marches du pouvoir pour exercer l'autorité dans le plus grand, le plus puissant royaume de l'Europe, craint de n'être pas à la hauteur de sa tâche. Et il est émerveillé de ce qu'il peut, de ce qu'il croit, pouvoir comprendre lui-même les papiers de finance. Alors, cette ingénuité du jeune Louis XIV nous fait mieux comprendre, vous voyez, ce conflit de génération. Louis XIV est porté par un courant là très fort de tous ceux qui ont 20 ans à ce moment-là, en 1658, et qui ne veulent plus des guerres de religion, des guerres de la Fronde, et qui aspirent à un état d'administration centralisé, autoritaire, ordonné, avec une sorte de logique que l'on dira cartésienne, pour même correspondre à l'esprit du temps.
Oui, l'ère baroque se termine et c'est l'ère classique avec cette génération-là.
C'est l'ère classique et ce n'est pas une invention de Louis XIV. Louis XIV est vraiment le fruit d'une génération.
Merci beaucoup, Yves-Marie Berset.